Je reçois depuis des années la même question. Comment faire pour rester motivé quand on se lance dans une initiative, dans une entreprise, dans quelque chose de nouveau? Pourquoi est-ce que quand on commence, la motivation est à son paroxysme, mais après, on n'a plus envie de rien faire, on a juste envie de baisser les bras? Comment faire pour rester motivé? Il y a quelque temps, j'ai enregistré un épisode sur la motivation, justement, où j'expliquais ce que c'est, pourquoi est-ce que parfois elle baisse, pourquoi est-ce que parfois elle disparaît, et ce qui pousse ceux qui continuent de travailler à le faire. Est-ce que c'est vraiment la motivation ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que rester motivé sur le long terme est réellement possible? Si oui, comment? Sinon, comment contourner ce problème? On va revisiter l'épisode 12 du podcast intitulé « Motivation et discipline » où j'explique clairement le rôle de la discipline quand on se lance dans une initiative. Finalement, la question c'est qu'est-ce qui permet de tenir? Est-ce la motivation ou la discipline? Qu'est-ce que la discipline et comment la gérer? Quel est son rapport à la motivation? Je réponds à toutes ces questions dans cet épisode. One, two, three, four. Annoncé au départ, on va parler de discipline et motivation aujourd'hui. On va commencer comme on faisait à l'école, par l'explication, la définition des concepts. Donc, motivation. Selon le Larousse, la motivation, c'est ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. Pour moi, la motivation, c'est la visualisation du résultat à atteindre. Prenons par exemple quelqu'un qui veut réussir son examen. Sa motivation, c'est se voir déjà avec cet examen en poche-là. Du coup, il fera tout ce qu'il faut pour atteindre ce résultat qu'il visualise. Pour ce qui est de la discipline, selon le Larousse, c'est règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir. En gros, pour moi, la discipline, c'est l'ensemble des actions à mener pour atteindre le résultat qui nous motive. C'est aussi simple que ça. Généralement, quand les gourous, entre guillemets, de la motivation personnelle nous parlent de discipline et de motivation, ils nous parlent beaucoup de volonté. Ils nous disent que les gens qui échouent sont des gens qui n'ont pas la volonté de réussir. Si tu n'arrives pas à faire ci, c'est parce que tu n'avais pas assez de volonté. Si tu n'es pas assez discipliné, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté d'être discipliné. Et pour moi, c'est un problème parce que je trouve que ce qu'il raconte, c'est du grand n'importe quoi. Revenons à la définition des concepts. Selon le Larousse, la volonté, c'est ce que veut quelqu'un. Ce que veut quelqu'un. Si on revient sur ce qu'est la discipline, c'est règle de conduite que l'on s'impose. Maîtrise de soi, sens du devoir. Généralement, la discipline vient brider la volonté. Prenons mon cas sur ce qu'est de l'alimentation. Ces derniers temps, j'en ai parlé sur Instagram, je suis le programme de Meldi, qui est le Mel 90, qui est un rééquilibrage alimentaire, et je le suis depuis environ 6 mois. J'adore, franchement, j'adore. Je suis une fan du coca. J'adore le coca, surtout quand il fait très chaud, que j'ai très soif. Tout ce que je veux, c'est boire un verre de coca. Par contre, je sais que si je cède à ma volonté, je mets une emphase sur le mot, si je cède à ma volonté de consommer ce coca, je ne serai pas disciplinée. Et je n'aurai pas le résultat que je souhaite atteindre. C'est-à-dire que la volonté, qui est ce qu'on veut, généralement va à l'encontre de la discipline. Prenons le cas d'un mec qui veut réussir un examen. Sa volonté, ça peut être quoi? Sa motivation, son objectif, c'est avoir son examen. Sa discipline, c'est faire tout ce qu'il faut pour avoir cet examen-là. Par contre, qu'est-ce qu'il veut?
Il ne veut pas forcément rester assis à son bureau tous les soirs après le travail pour avoir son examen. Non, il veut chiller, il veut regarder un film, il veut discuter avec des amis, il veut sortir, il veut rester sur son balcon, sa véranda, à regarder les étoiles. Franchement, il veut faire tout ce qui lui permet de déstresser et c'est-à-dire que de se poser, d'être calme, d'être peace et tout. Par contre, il doit travailler pour avoir son examen. En fait, s'il cède à sa volonté, il ne travaille pas. Donc, qu'est-ce que ces gens racontent en fait quand ils nous disent qu'on manque de volonté quand on n'est pas discipliné? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils nous disent qu'on manque de volonté, quand on n'atteint pas nos résultats? En fait, c'est juste qu'on cède à notre volonté. C'est totalement le contraire. On cède à notre volonté, on fait ce qu'on a envie de faire, qui n'est pas forcément compatible avec ce qu'on devrait faire pour avoir le résultat qu'on souhaite atteindre. Il y a cette phrase-ci que je me dis chaque fois que je dois aller à l'encontre de ma volonté pour atteindre un résultat. Je me dis, discipline is not supposed to make you feel good, it is supposed to take you somewhere. Parce qu'en réalité, la discipline, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort total. Par exemple, devoir se réveiller une heure avant son heure de réveil habituelle pour faire sa session de sport, c'est inconfortable. On a envie de dormir. Et du coup, quand je me dis ça, je me dis, discipline is not supposed to make you feel good. Je me rappelle qu'en fait, cet inconfort-là, c'est moi qui fais preuve de discipline pour atteindre mes objectifs. Si je cède à ma volonté, je me recouche et je dors. Et puis c'est tout. Je me réveille une heure après et j'ai pas fait mon sport. Je n'ai plus le temps de le faire dans la journée et je n'atteins pas mes résultats. So, you people, vous devez repenser un petit peu comment vous percevez la volonté dans tout, dans comment est-ce que je vais dire ça? Comment vous percevez la volonté dans votre perception de la discipline et de la motivation? Voilà, je l'ai mieux dit et en des mots bien plus simples. Avant de continuer à parler de discipline et de motivation, j'aimerais qu'on parle du gap entre la discipline constructive et les bêtises présentées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous parlent très souvent d'une discipline de fer, c'est-à-dire que Elon Musk ne dort jamais, Bill Gates ne dort jamais, ceci ne dort jamais, cela ne dort jamais. Pour faire des économies, tu ne dois jamais dépenser, tu ne dois jamais faire ceci, tu ne dois jamais te faire plaisir, tu ne dois jamais. Oui, ce n'est que du jamais, du jamais, du jamais. En fait, pour ce qui est du travail, quand on vous dit vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, vous devez vous réveiller à 4 heures du matin, vous devez vous coucher à 3 heures du matin, vous devez faire. Wow! Cette culture du burn-out doit s'arrêter. C'est comme si on dit aux gens, en fait, si tu n'es pas au bord de l'évanouissement, de fatigue, tous les jours, à toutes les minutes que Dieu a fait, tu n'as pas assez travaillé. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est en fait même contre-productif de se mener droit vers le burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out en 2018, quand j'ai décidé de mettre Elle Citoyenne en sommeil. Elle Citoyenne, c'est la plateforme citoyenne et participative que j'ai créée en 2015. J'étais vraiment en mode burn-out. Et ça a été très, très difficile pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je me disais, mais j'ai fait exactement tout ce qui m'a été recommandé. J'ai travaillé comme une folle, j'ai atteint des résultats, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais pourquoi est-ce que j'ai cette anxiété-là? Pourquoi est-ce que je vis ces moments de stress? Pourtant, je fais exactement ce qui m'est recommandé. En fait, je vais prendre le cas des réseaux sociaux. C'était une plateforme digitale, donc elle était très présente sur les réseaux sociaux pour pouvoir alimenter des. Comment je vais dire ça? Des débats autour de la citoyenneté, de la politique, de la société, de tout ce que vous voulez. Et à l'époque, le gourou pour moi, pour les réseaux sociaux, c'était Gary V. Gary Vaynerchuk, qui est très connu dans tout ce qui est digital. Et son discours, c'était « Soyez présent sur tous les réseaux sociaux tout le temps. Il faudrait que vous soyez là pour qu'on ne vous oublie pas, pour innover, pour… » En fait, il fallait être là pour avoir des résultats optimaux. Il fallait être là tout le temps, tous les jours. Ce qui fait que, outre le travail sur le site Internet, je devais réfléchir à des stratégies digitales quotidiennes, en fait, pour les réseaux sociaux. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Twitter, la communication sur Twitter n'est pas la même que sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. Et il fallait avoir au moins 115 stratégies de communication, parce qu'il fallait celle du site même et celle de tous ces réseaux-là. Et il fallait alimenter les réseaux sociaux tous les jours, au moins 5 à 6 fois par jour pour être présent. C'était très lourd, c'était vraiment très lourd. Et au final, ça s'est avéré être contre-productif parce que, par exemple, une plateforme comme Snapchat, comme Instagram, elle ne m'était pas utile pour ce que je voulais faire parce que les messages que je faisais passer n'étaient pas forcément bien portés sur ces plateformes-là. Mais comme il avait dit qu'il fallait le faire, je le faisais et j'en suis arrivée à un burn-out. Je n'en pouvais plus, je travaillais H24. Mon cerveau s'est arrêté et j'ai commencé à faire avoir de grosses crises d'anxiété et d'angoisse quand j'ouvrais les réseaux sociaux. C'était très difficile pour moi. J'ai quitté Facebook, j'ai quitté Twitter, j'ai mis Elle s'éteint dans son sommeil. Bon, pas forcément seulement pour cette raison-là, mais c'était une des raisons majeures. J'ai tout arrêté, en fait. J'ai tout arrêté et j'ai disparu. Je n'en pouvais juste plus. Et avec Digression, quand j'ai créé Digression, qui est mon blog, medigression.com, J'ai carrément fait le truc inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire un test. Je vais aller à l'encontre de tout ce qu'il a, de tout ce que Gary V prône pour voir comment ça marche. J'ai concentré mes efforts sur une seule plateforme, c'est-à-dire le blog. J'ai tout donné au blog pour créer le meilleur contenu qui soit, pour ne pas être dispersé à créer des contenus. Non. Je me suis focalisée sur le blog et pour vous dire la vérité, Digression a une meilleure portée, a une communauté nettement plus soudée et nettement plus présente qu'Elle Citoyenne, malgré tout le travail que j'ai pu faire pendant cette époque-là. Malgré tous les conseils que j'ai suivis, franchement, j'ai été une élève modèle et ça m'a conduit au burn-out. Et je fais cet épisode sur aujourd'hui pour vous dire qu'il ne faut pas normaliser le burn-out. Il ne faut pas le normaliser. Autre chose, il y a le mythe du serial entrepreneur ce mythe-là qui fait croire aux gens qu'il faut avoir 715 000 entreprises pour être quelqu'un qui a réussi. Je suis désolée, hein, mais les exemples qu'on vous donne, en fait, on vous ment, tout simplement, on vous ment. Prenons le cas d'Elon Musk qui a, je crois, 3 ou 4 entreprises qui marchent vraiment bien. En fait, quand tu lis sa biographie, tu te rends compte que il n'a pas ouvert 7 entreprises ou 5 ou 4 ou je ne sais pas combien en même temps. Il a ouvert une entreprise. Pendant un bon moment, il a huilé la mécanique. Il a créé une équipe de choc qui peut avancer avec un minimum de supervision de sa part avant de se lancer dans une autre aventure. Par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui lancent un business de fringues, un business de bouffe, un business de beauté en même temps et qui veulent percer en même temps dans ces 3 business. En fait, vous faites exactement ce que moi, je faisais sur les réseaux sociaux avec Elle Citoyenne. C'est-à-dire que mon énergie était mal répartie. Au lieu de me focaliser sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire que valoriser l'action citoyenne, j'étais là à courir sur Facebook, à courir sur Twitter, à courir sur Instagram, à courir sur site, à disperser inutilement mon énergie pour être présente sans toutefois forcément alimenter des débats de fond. Il fallait juste être présent. Et à un moment donné, j'ai commencé à raconter des bêtises sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait avoir du contenu. C'est là que je me suis dit, écoute, quand même non. Parce que mon énergie était dispersée partout, la qualité de ce que je faisais commençait à diminuer. Ça devenait vraiment de la merde. Donc, à un point, je me suis dit, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça devient n'importe quoi. Il faut juste arrêter. J'ai récemment lu le livre One Thing qui a été écrit par Gary Keller et Jay Papasan qui justement parle de la culture du burn-out et du fait de disperser son énergie pour réaliser différentes choses en même temps. Dans le livre, il le dit très simplement, concentrez-vous sur une seule chose, soyez constant, soyez régulier, mettez-y du travail, faites des efforts et vous aurez les résultats que vous désirez, si vous êtes discipliné. C'est un livre sur la discipline en réalité et je vous le recommande vraiment parce qu'il vous fera voir les choses de manière vraiment très différente de ce qui est présenté par les gourous du développement personnel. Avec Digression, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait cette expérience-là. Je me suis concentrée sur une seule chose. J'ai déployé toute mon énergie sur une seule chose et je suis satisfaite des résultats. Franchement, avec Elle Citoyenne, et tout ce que j'ai pu faire comme travail, toute cette énergie dépensée, je n'ai pas eu une communauté aussi soudée que celle que j'ai avec digression. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, j'ai testé les deux méthodes et celle qui marche, c'est ne pas disperser son énergie inutilement. So, stop that. Cette culture du burn-out. Et puis, je dors la nuit. Cette histoire où je dors... Non, c'est fini. Je dors la nuit, je travaille de façon raisonnable. Ce qui nous mène à la deuxième partie de cet épisode-ci, que j'ai intitulé dans mes notes, « Comment être discipliné, entre parenthèses, discipline saine en 10 points ». Donc là, je vais partager mes méthodes à moi, celles que j'ai éprouvées, qui me permettent d'être plus ou moins discipliné, parce que ces derniers temps, je suis quand même assez têtu, je fais quand même un peu n'importe quoi. Mais quand je les applique, franchement, je suis très, très satisfaite des résultats que j'ai. Et c'est ça que j'ai partagé aujourd'hui. Et non, je ne suis pas un gourou de personal growth or whatever. Je partage seulement ma part et puis c'est tout. Donc, je disais point 1, définir sa roadmap détaillée et surtout visualiser les objectifs à atteindre. Ici, je parle de motivation. Ne vous lancez pas dans un truc parce que Elon Musk a fait ça à marcher, parce que la cousine a fait ça à marcher, non. Quel est votre objectif personnel? Pourquoi est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous vous voyez une fois que vous aurez réussi? S'il vous plaît, évitons de ne voir que les grosses voitures et les chaînes en or. Merci. Donc, comment est-ce que vous visualisez la chose? Quel est le résultat que vous voulez atteindre et qu'est-ce que ce résultat-là vous apportera? Comment est-ce que vous vous voyez quand vous aurez déjà atteint ce résultat? J'ai noté également que s'il s'agit de travail, ne pas oublier sa vie personnelle, trouver un équilibre entre les deux. Lorsque j'étais en mode folie, là où je travaillais sans jamais m'arrêter, j'avais mis carrément une croix sur ma vie personnelle. Quand je dis personnelle, j'avais pas de mec, ça j'en avais parlé, je pense, sur le blog, j'avais fait une période d'abstinence de 3 ans, je pense. Donc ça m'allait assez, mais quand je parle de vie personnelle, il y a aussi ma famille. Ma famille était complètement mise de côté parce que selon ce que les gourous disaient, il fallait ne faire que ça. Donc, j'avais mis absolument tout de côté. Et ma soeur me disait souvent, mais en fait, toi, on ne peut pas compter sur toi, quoi, parce que tu es toujours prise. Je disais, écoute, je travaille. Parce que ça semblait sexy de le dire comme ça, quoi. Je travaille. Donc, non, l'idée n'est pas de jeter votre famille, vos amis, vos mecs, vos meufs aux orties. Non, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Et ça, je l'ai vraiment appris quand j'ai eu le petit humain. Il fallait que je trouve un équilibre. Travail, oui, mais vie personnelle et aussi hobby. Parce qu'au final, j'ai un boulot, je dois travailler et performer. J'ai un boulot, j'ai mon enfant, j'ai mon mec, j'ai ma vie de famille que je suis en train de construire. Et puis, j'ai la création de contenu qui pour moi est vraiment essentiel pour mon équilibre mental. Donc, il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas seulement vous plonger dans le travail et puis vous réveiller à 60 ans et se dire, oh, au final, non, faut pas faire ça. Faites un plan détaillé, ayez des objectifs, oui, mais ne vous abandonnez pas vous-même parce que vous voulez atteindre ces objectifs-là. Non, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre source de revenus, c'est très important. Et quand même, ne jetez pas absolument tous les hobbies aux orties parce qu'eux aussi vous permettre de tenir le coup quand ça ne va pas. Ça permet de déstresser, de décompresser. C'est super important. Le deuxième point, c'est observation de soi. Et j'ai noté ne rien changer à ses habitudes, les observer. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous lisez parfois, du moins quand je dis vous, c'est pas forcément toi qui écoutes, hein, donc voilà. Quand vous lisez parfois les morning routines, ces choses-là de personnes qui ont réussi, vous vous réveillez un matin, vous décidez que j'aurai la même morning routine. Pourtant, vous ne savez pas comment il a fait pour arriver à cette morning routine ou alors à cette daily routine ou whatever routine. Vous vous réveillez un matin, vous décidez que, oh non, moi vraiment, je vais faire comme lui. Non. Ce que vous oubliez, c'est que vous avez des habitudes et que quand les habitudes sont ancrées, il est très difficile de les bousculer. Et si vous les bousculez de façon très violente, vous n'y arriverez pas du tout. Et vous serez là à vous auto-flageller, pardon, à vous dire, ouais, moi, je n'arrive pas, je ne dis qu'une merde, je n'arrive pas à le faire, pourtant, lui, le fait, machin. Mais c'est parce que la méthode n'est pas la bonne. Quand j'ai voulu me lancer dans le rééquilibrage alimentaire avec Meldy, voilà comment j'ai procédé. Je lis ce que j'ai noté. Ne rien changer à ses habitudes, les observer. Regarder et noter tout ce qui nous prend et slash où nous perd du temps. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de faire autre chose de plus utile pour soi? Quand j'ai acheté le mail 90 que je l'ai reçu, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai vu ce qui était préconisé en termes d'alimentation au quotidien. Ensuite, j'ai continué ma vie. J'ai stocké ces informations-là et j'ai continué ma vie pour voir à quel niveau est-ce que ce n'était pas harmonieux. Comment est-ce que je mange au quotidien? Par exemple, j'avais l'impression, moi j'étais très certaine que j'étais quelqu'un qui ne grignote pas parce que je n'ai pas de biscuits, de bonbons, de machin dans la maison. Mais en réalité, je grignote parce que je mange entre les repas. Je passais ma vie à manger en fait. Toute la journée, je bouffais en fait. Dès que je passe devant un truc, c'est joli dans la cuisine, je bouffe, je passe. Mais comme ce n'était pas des bonbons, des biscuits, des chips, je me disais, ah non, je ne grignote pas. Pourtant, je grignotais à longueur de journée. Si je m'étais lancée sans réfléchir, j'aurais continué cette habitude-là parce que je n'aurais pas pris le temps de l'étudier et de me rendre compte qu'elle n'est pas bonne. Donc, sur environ 3 à 4 semaines, j'ai continué ma vie. Et puis, non, sur 2 semaines, j'ai continué ma vie. Et sur 2 semaines, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais adapter le programme à mon style de vie. Donc, je n'ai pas, dès le lundi matin, décidé que, ah non, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord assesser comment est-ce qu'on vit son quotidien pour voir à quel niveau ça ne marche pas, voir ce qu'il faut arranger et travailler dessus. Donc, pardon, arrêtez d'adopter les morning routines des gens. Pardon. Le point 3, c'est ne pas se précipiter. Dans The One Thing de Gary Keller, j'ai appris un truc. Généralement, on dit qu'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Dans son livre, il dit qu'il faut 66 jours pour adopter une nouvelle habitude. Après, j'ai dit Gary Keller, mais en fait, ils sont deux. C'est Gary Keller et Jay Papasan. Il ne faut pas oublier Jay Papasan. Donc, adopter une nouvelle habitude prend en réalité 66 jours. Donc, vos machins, où vous dites que non, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne ronge plus les ongles et puis j'aurai les machins, ça ne marche pas comme ça. Adopter et abandonner une habitude, c'est très difficile. Donc, quand vous essayez, en fait, d'adopter un tout nouveau style de vie, tout en bloc en même temps, forcément, votre corps va faire un rejet parce que vous avez des habitudes déjà ancrées qui sont depuis des années et vous venez leur dire aujourd'hui, écoute, non, voilà, on fait table rase. Ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est j'adopte une nouvelle habitude à la fois et j'abandonne une nouvelle habitude à la fois pour ne pas avoir d'interférence dans le cerveau et pour rester concentré. Parce que si je travaille sur deux habitudes à la fois, j'aurai parfois l'impression d'avancer, pourtant ce n'est pas le cas. Au niveau de l'évaluation, ce sera compliqué pour moi. Donc, non, c'est une seule habitude que j'adopte et une seule habitude que j'abandonne. Et puis, je me donne le temps qu'il faut pour marcher droit et j'accepte que parfois, je peux trébucher. Ça, c'est très clair. Le quatrième point, c'est trouver sa formule. Déjà, il y a quelques années, je vais dire en 2016, je pense, j'avais des problèmes de sommeil. C'est à l'époque où je travaillais, je carburais vraiment sans réfléchir, quoi. Et j'avais des problèmes de sommeil. J'avais un sommeil très, pas du tout reposant. Donc, ce que j'ai fait à cette période-là, c'est que j'ai décidé d'étudier mon sommeil pour savoir exactement combien d'heures de sommeil il me fallait pour tenir dans la journée. Parce que ça, quand j'avais cessé de dormir, non, c'était en 2017, parce que quand je manquais de sommeil, c'était vraiment compliqué. Donc, j'avais décidé de revoir vraiment mon sommeil. Et sur environ 3 à 4 semaines, j'ai étudié la façon dont je dormais. Et puis, j'ai essayé de voir les heures où j'avais les rêves les moins perturbants, parce que je rêvais carrément de films d'action, mais des films super intéressants que je regardais pendant toute la nuit, quoi. Et il fallait que ça s'arrête parce que je ne me reposais pas. J'étais là dans mon film d'action à regarder des fusées exploser et tout et tout. Et je me suis aperçue qu'il me fallait 5 heures de sommeil et que je dormais bien entre minuit et 5 heures. Et c'est ce que j'ai adopté. 5 heures de sommeil, je dormais bien entre minuit et 5 heures. Quand je dis trouver sa formule, c'est ça en fait. N'allez pas vous coucher à 2 heures du matin parce que tel gourou avait dit que c'est ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas comme ça. Chacun a son corps et chacun a sa façon de fonctionner. Et le sommeil est très important pour fonctionner de façon équilibrée, de façon saine et comme il faut. Il y a ce livre-là qui est intitulé « Why We Sleep » qui a été écrit par Matthew Walker. Je n'ai pas encore fini de le lire. Il est plutôt volumineux. Mais il est super intéressant et j'ai appris des choses hyper intéressante sur le sommeil. Franchement, il y a ce truc-là que je ne savais pas. Il y a des gens qui sont des couches tard et lèvent tard. Il y a des gens qui sont des couches tôt et lèvent tôt, n'est-ce pas? On vous dira que les couches tard et lèvent tard, ce sont des paresseux. En réalité, ces deux groupes-là existent pour une raison très simple. Quand les humains étaient à l'époque de la chasse et de la cueillette, c'est-à-dire que chasse et cueillette, c'est-à-dire il y a très très longtemps, ils dormaient en bande. Et les gènes se sont harmonisés de manière à ce qu'il y ait certains qui soient des couches tôt et des lèvent tôt, et d'autres soient des couches tard et des lèvent tard, pour qu'on ne dorme pas tous au même moment, pour qu'il y ait des gens qui puissent assurer la garde quand les autres dorment. On n'est plus à la préhistoire, mais nous sommes programmés comme ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des couches tôt et des lèvent tôt, et d'autres qui sont des couches tard et des lèvent tard. Donc, adoptez vos nouvelles habitudes en calibrant selon vos habitudes de sommeil. Ça, c'est très important. Malheureusement, la société aujourd'hui favorise les couches tôt et lèvent tôt parce que tout commence tôt, l'école, le travail. Généralement, tout commence très tôt. Et on fait croire aux couches tard qui sont des paresseux. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous êtes des couches tard, sachez que vous n'êtes pas des paresseux. Donc, je disais, votre temps de sommeil est très important et il faudrait que vous puissiez construire autour. En fait, votre temps de sommeil ne doit pas s'adapter à la formule que vous voulez adopter. Au contraire, c'est la formule qui doit s'adapter à votre temps de sommeil. Parce que moins vous dormez, moins vous êtes reposé, moins vous êtes performant. Et je ne pense pas que ce soit ça l'objectif ici quand vous voulez vous créer une discipline. Vous voulez être performant et pour être performant, il faut bien dormir. Cinquième point, c'est il faut être là pour soi. André Gide disait « choisir, c'est renoncer ». Donc, si vous choisissez d'être discipliné, vous renoncez forcément au fait de plier à votre volonté et de plier à la volonté des autres. Il faut apprendre à dire non pour vous créer du temps. Dites non au chill avec les amis, dire non au fait de regarder les étoiles sur le balcon ou la véranda, dire non au fait de regarder des films plutôt que de travailler, dire non aux gens qui vous forcent à sortir alors que vous ne pouvez pas. En fait, il faut apprendre à dire non pour vous créer du temps pour travailler à vos objectifs. Ensuite, il faut accepter de se quitter pour se trouver. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais voilà ce que j'ai noté. Accepter de laisser derrière l'ancien soi pour embrasser le nouveau que beaucoup rejetteront, pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'il leur est inconnu. Prenons un cas simple. Revenons sur le mec qui veut avoir son examen. Supposons que c'est un mec qui sortait beaucoup, qui allait en boîte de nuit avec ses amis, qui sortait prendre des verres et tout et tout. Et subitement, il dit non à ce genre de sortie parce qu'il a besoin de se concentrer sur son travail pour atteindre son objectif. Ses amis, à un moment donné, vont l'abandonner. Pas parce que... En fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce nouveau lui-là. Ils ne le connaissent pas, ils ne veulent pas traîner avec ce nouveau lui. Et ce sera à ce mec-là de faire le choix de continuer à plaire à ses amis ou de faire ce qu'il faut pour travailler. Je reviens sur le fait de ne pas forcément jeter la famille et les amis aux orties. Ça ne signifie pas qu'il faut continuer le lifestyle d'avant, qu'on avait avant de décider d'être discipliné. Parce que forcément, il y a des choses qu'on devra abandonner. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on abandonne et comment est-ce qu'on compense? C'est-à-dire qu'on peut abandonner les sorties, les virées tous les soirs après le travail pour se retrouver un samedi sur deux avec ses amis et vraiment passer du temps de qualité, en fait. Donc, pas besoin de ne plus jamais voir ses amis, mais trouver un équilibre et comment compenser. Voilà ce que j'entends par là. Point 6, c'est faire des constant checks, c'est-à-dire que des évaluations super constantes. En fait, j'ai appris ça des mouvements de fitness. Quand on fait du fitness et qu'on s'habitue à en faire, qu'on s'habitue à faire certains mouvements, à un moment donné, on ne check plus la façon dont on se positionne et on se retrouve, au lieu d'être des pros, entre guillemets, de certains mouvements, on se retrouve à les faire très mal, bien plus mal que les débutants. Parce qu'on se dit qu'on les connaît déjà, qu'on sait les faire. Du coup, on ne check plus et on les fait mal. Donc, quand on fait du fitness, généralement, quel que soit le mouvement, on doit garder à l'esprit de toujours évaluer notre position. Comment est-ce qu'on se positionne? Par exemple, comment on positionne le bras, comment on positionne la jambe, est-ce que le dos est bien placé, est-ce que machin, du moins pas bien placé, mais pas cassé façon. En fait, il faut toujours, toujours, toujours checker. Et ça, c'est très important pour avoir des résultats qu'on peut attendre. Et c'est ça que j'applique en fait à ma vie de tous les jours. Faire des constant checks et évaluer les progrès sur une base définie à l'avance. Parce que si on décide d'évaluer les progrès tous les jours, je suis désolée, les progrès ne se ressentent pas au jour le jour, mais plutôt sur de longues périodes. Par exemple, on peut décider de le faire sur une base trimestrielle. Moi, c'est ce qui a très bien marché quand j'ai décidé de reprendre le fitness après la grossesse. À la base, je vérifiais tous les jours si j'avais des résultats et je n'en avais pas. Et puis, je me suis dit un jour, mais arrête, franchement, tu fais n'importe quoi. Disons-nous, tous les 3 mois, on regarde où on en est. Et depuis, franchement, ma vie marche. Je regarde tous les 3 mois et puis j'ai le temps de me donner, du moins je me donne le temps de me consacrer à mon alimentation et à mon fitness pour assesser mes résultats tous les 3 mois. Je me donne le temps d'avoir de bons résultats en fait. Le point 7, c'est accepter qu'on peut parfois flancher. Ça peut arriver et ne pas s'auto-flageller pour autant. Oui, il m'arrive de temps en temps de prendre un verre de coca quand je ne devrais pas. Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que je vais me jeter à la poubelle pour ça? Non. Parfois, c'est difficile de résister. On ne peut pas être parfait tous les jours, tout le temps. Ce n'est pas possible. On est des humains, donc on flanche. Donc, ces gens qui vous disent que, ouais, non, si tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu as mangé un beignet au sucre aujourd'hui, tu vas devoir faire une session de sport plus longue demain parce que bullshit, man. Tu vas t'épuiser inutilement. En fait, tu vas t'épuiser inutilement et c'est pas comme ça que ça marche. Si c'est que tu as pris un beignet au sucre, que tu n'as pas pu résister, ce que tu fais, c'est que juste après, tu reprends ton programme. Tu reprends ton programme et tu continues sur la ligne que tu t'étais tracée. Ce n'est pas après le beignet, tu vas commencer à faire du footing parce que tu veux. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu as flanché, c'est normal, ça peut arriver. Fais juste l'effort de ne pas flancher tous les 2 jours, pardon. Reste quand même discipliné. Mais si tu flanches une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, je pense que ce sera tuant, quoi. Restons quand même lucides, restons quand même humains, acceptons quand même notre humanité, nous ne sommes pas des robots. Et puis ces gens-là même, j'ai oublié de parler de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps de la famille, attendez, je reviens un peu à ce niveau-là. J'ai dit ne pas se précipiter, j'ai dit ne pas jeter la famille et les amis aux orties. Je voulais parler de Bill Gates. Quand j'ai lu le livre de sa femme, je me suis rendu compte que cette image qu'on nous projette de Bill Gates n'est pas la bonne. Parce qu'on nous dit que Bill Gates est un gars qui passe toute sa vie à travailler et puis voilà. En fait, non. Bill Gates is a big family man. Il est très présent pour sa famille. Il est très présent pour appuyer son épouse. Et il est très présent. C'est-à-dire que c'est vraiment un family man. Son family time est très important à ses yeux. Et quand sa femme nous parle de leur quotidien dans son livre, j'ai oublié le nom, c'est un livre sur... J'ai oublié, regarde. Je vais mettre le nom et un lien en description de l'épisode. Franchement, quand elle parle de son mari, on n'a pas le Bill Gates qu'on nous présente sur les visuels sur Instagram là. Hein. Ce n'est pas la même chose. Ah non, 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 non. Donc, c'est pour vous dire que ces gens vous mentent. Ces gens vous mentent quand ils vous demandent de jeter aux orties votre famille, vos amis, vos époux, vos conjoints, vos mecs, vos meufs. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre. J'ai failli oublier de préciser ça. Ça va être très dangereux. Donc, point 8, être flexible. Les aptitudes et capacités changent selon les époques de la vie. J'ai dit qu'en 2017, j'avais besoin de 5 heures de sommeil. En 2020, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si je fonctionne sur 5 heures de sommeil, honnêtement, je fous ma vie en l'air. J'aurai des maux de tête toute la journée. C'est ce que j'entends par être flexible. En fait, comme tout à l'heure je disais, notre corps est humain, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas au corps de s'adapter à ce qu'on veut, c'est à nous d'adapter ce qu'on veut à notre corps. Aujourd'hui, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, donc je m'arrange aussi souvent que possible, à avoir 8 heures de sommeil. Il en va de même pour la manière dont mon corps processe les aliments. Avant la grossesse, je faisais mon fitness, ma vie marchait. Je marchais, je mangeais comme je voulais, quand je voulais, hein, sans souci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je me suis rendu compte que mon alimentation est très, très importante pour la façon dont mon corps est formé et façonné. Et je l'ai déjà dit, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin d'avoir un corps que j'aime voir. Donc voilà, que j'aime regarder, je veux dire. Donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve en train de faire un rééquilibrage alimentaire, ce qui était totalement impensable avant la grossesse. Ou alors, je ne sais pas si c'est la grossesse qui a créé ça, ou si c'est l'âge, ou je ne sais pas. Mais de toute façon, je dois m'adapter, sinon je ne m'en sortirai pas. Aujourd'hui, je ne peux pas avancer avec les mêmes codes qu'il y a, que j'utilisais il y a 3, 4 ans. Ce n'est pas possible. Donc, adaptez-vous, soyez flexibles. Les aptitudes et les capacités, non seulement elles changent selon les époques, mais elles ne sont pas forcément communes à tout le monde. Mon ami Aramel, par exemple, a une mémoire auditive et visuelle. Il est difficile pour elle de lire un certain type de livre, elle préfère les écouter parce que c'est qu'elle les retiendra mieux. Est-ce que parce que moi, ces livres-là, je les lis en format papier, elle doit s'obliger, elle aussi, à faire pareil? Non, parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas les mêmes capacités. Le style de livre qu'elle écoute, moi, je ne peux pas les écouter parce que ce n'est pas besoin que je fonctionne. Et voilà, il y a des gens qui vous diront qu'ils ont une mémoire visuelle. Regarder des films et des documentaires, c'est plus facile pour eux pour comprendre les concepts. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je préfère lire. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis défaillante ou alors je vaux moins que les autres ou alors ils valent moins que moi? Non, chacun a son corps, ses compétences, ses aptitudes, ses capacités. C'est aussi simple que ça. Point 9, être régulier. En fait, avoir une discipline, ce n'est pas écrire ça sur un papier et puis coller ça au mur et puis attendre que dans ça... Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut être régulier et il faut le faire sur le long terme. C'est-à-dire que si vous vous dites, je veux avoir mon examen, vous devez réviser régulièrement et pendant longtemps. Ce n'est pas en révisant régulièrement la dernière semaine de révision que vous allez avoir cet examen. Ce n'est pas comme ça. Vous révisez régulièrement et sur une période assez longue. C'est-à-dire que la constance est super, super importante. Et ça me permet de rebondir sur un truc par rapport au créateur de contenu. Certains pensent que c'est après avoir écrit un article sur leur blog, après avoir publié un visuel sur Instagram, qu'ils auront 7500 followings, qu'ils auront une communauté de malades, machin. C'est pas comme ça. Il faut être régulier et accepter de le faire sur le long terme. Il n'y a pas de raccourci. La discipline n'est pas un raccourci. Au contraire, la discipline vous pousse à prendre le chemin le plus long, mais le chemin le plus efficace. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'achat de followers, il n'y a pas d'achat d'examen. Non, il y a le travail et la reconnaissance pour le travail qu'on abat. C'est tout. C'est tout. Le point 10, je viens de le couvrir en fait, c'est accepter qu'il n'y a pas de raccourci. Tout se passe sur le long terme. So, voilà, people, bye. 1, 2, 3.